Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir à la une. Emmanuel Macron qui parle immigration et retraite devant ses troupes. Deux candidats anti-système, dont un en prison au deuxième tour de la présidentielle tunisienne. Isabelle Balkany aux commandes de Levallois malgré les condamnations. Brigitte Macron et les décrocheurs, la première dame sur le terrain à Clichy-sous-Bois, c'est dans les informés avec Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, avec Maya Daboulos, directrice générale adjointe de Havas Paris, avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info, et avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Bonsoir à tous les quatre, bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. C'est donc l'événement politique ce soir. Emmanuel Macron à la rencontre de sa majorité. Cela se passe au ministère des Relations avec le Parlement. Bonsoir à vous, Marc Bottevin.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous.
Du service politique de France Info. Marc, où est-ce qu'on en est? Est-ce que le président s'exprime?
Eh bien, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que le portail du ministère s'est bien fermé et que la réunion à l'intérieur est en cours. Les sujets, vous effleuriez tous ces sujets, ils sont nombreux. On parle évidemment de cette réforme des retraites d'actualité avec ces mobilisations vendredi dernier à la RATP et puis encore aujourd'hui avec les professions libérales. Autre sujet au programme de cette réunion ce soir dans les jardins du ministère, l'écologie, mais surtout la question de l'immigration, elle est cruciale pour Emmanuel Macron qui est préoccupé par la hausse du nombre de demandes d'asile en France. Le président qui ne veut surtout pas abandonner ce thème à la droite et à l'extrême droite alors que les municipales approchent. D'où ce débat à l'Assemblée le 30 septembre sur l'immigration. Un sujet épineux dans la majorité. Il faut se souvenir de la loi asile et immigration de Gérard Collomb adoptée dans la douleur. En tout cas devant les caméras ici avant le début de la réunion, la présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, expliquait qu'il n'y avait pas de tabou chez les marcheurs sur cette question de l'immigration. Ça tombe bien, le président de la République est sur la même ligne. En tout cas, l'exécutif tente de rassurer les parlementaires de la majorité qui s'inquiéteraient à l'approche de ce débat sur l'immigration. L'exécutif qui adresse un message, il n'y a pas de nouveau projet de loi dans les cartons.
Allez, merci pour ces précisions. Bonne soirée, hein. Bon courage devant ce ministère. Marc Bottevin avec les moyens techniques de Laurent Lucas, je me tourne vers vous, Jeannick Halimi. C'est un sujet qui peut diviser cette majorité, sujet explosif.
Vous parlez de l'immigration, hein, pas des retraites. Hein. Oui, tout à fait. Emmanuel Macron le sait parfaitement, puisque le journaliste France Info vient de le rappeler. Hein, il y avait eu un mouvement, sinon de fronde, mais en tout cas de grondeur, il y a environ un an et demi.
Grondeur, vous dites.
Oui, oui de grondeur, parce que finalement, il y a eu très très peu, j'ai plus les chiffres en tête, pardonnez-moi, d'élus La République En Marche ou de la majorité en général avec le MoDem qui avait voté contre la fameuse.
Il y a eu beaucoup d'abstention en réalité.
Il y avait eu.
Essentiellement.
Absolument. Donc Emmanuel Macron sait que c'est un sujet explosif, mais paradoxe. Donc c'est pour ça qu'il veut d'abord marquer les choses, alors qu'il n'y est pas obligatoirement invité.
Oui, parce que c'est nouveau,
Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de projet de loi, dit-on, en préparation. Il va avoir un débat sans vote à la fin du mois de septembre. Mais je voudrais juste finir sur une chose, c'est que bon, paradoxalement, les freinages ou les tensions pourraient naître non pas de l'opposition parce que elle risque finalement de se neutraliser entre une gauche,
mais des rangs de la majorité.
Mais effectivement, au cœur de la majorité, il y a aujourd'hui, je termine, entre 25 et 50 élus LAREM, La République En Marche, qui disent dans les couloirs qu'ils pourraient, si vraiment ce que pourrait dire, vraiment il y a des dispositions ou des orientations édictées par le Premier ministre qui allaient à l'encontre de leur
Ça fait une cinquantaine de mécontents,
maximum, qui pourraient quitter le groupe.
Gilles Bornstein, qu'est-ce que ce sujet vient donc faire là, sur la table, en cette rentrée? Personne n'en parlait.
Personne n'en parlait, sauf le président de la République. Personne n'en parlait dans sa lettre aux Français avant le grand débat. Il avait mis l'immigration sur la table parce que, effectivement, il est là-dessus Le président est très différent du candidat. On se souvient que le candidat avait soutenu Angela Merkel contre Manuel Valls en 2015 quand elle avait accueilli les demandeurs d'asile venus de l'Est. Alors, est-ce par volonté politique, est-ce à l'épreuve du pouvoir ou vraisemblablement un peu des deux? Il se modifie à l'épreuve du pouvoir. Il est convaincu que l'immigration va jouer un rôle dans les futures élections. D'ailleurs, j'ai eu des textos sur ce qui s'est dit depuis qu'il est arrivé à La Réunion. Il a d'abord dit « Nous sommes très heureux de retrouver le président Ferrand », mais il a dit surtout «
Ça, c'est de l'interne, ça.
Ça, c'est de l'interne. Nous sommes si heureux, citation Emmanuel Macron, nous sommes si heureux de retrouver le président Ferrand ici aujourd'hui. Mmh. Donc, Emmanuel Macron fait de la politique et nous entrons dans un cycle électoral qui nous mènera au présidentiel. Ouais. Donc, que a-t-il dit? Donc, que vient faire l'immigration là-dedans? Eh bien, il prépare les présidentielles.
Mariana Boulos, c'est de la présidentielle. Il a raison, Gilles Bronstein.
Oui, il a raison. Oui. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, puisque vous parlez de la présidentielle, que même si l'immigration n'est pas un sujet qui est médiatiquement très présent, rappelons-nous quand même que Marine Le Pen, si elle n'a pas fait une victoire absolue durant la présidentielle, a quand même progressé de 13 points entre le premier et le deuxième tour. Par ailleurs, on a tendance à l'oublier, le Rassemblement national est quand même arrivé premier aux élections européennes. Donc effectivement, avec les Gilets jaunes, le pouvoir d'achat était le sujet central, mais néanmoins, la question de l'immigration reste très présente dans l'opinion, d'une part sur la lutte contre l'immigration clandestine et d'autre part sur le coût de l'immigration.
Ouais. Arnaud Benedetti, vous êtes d'accord avec ça? L'immigration, c'est un item, on aime bien ce mot.
C'est un sujet qui est très fort dans les enquêtes d'opinion depuis maintenant 20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, Marine Le Pen, elle, de son côté, lors de l'université d'été de Fréjus, a très peu parlé de l'immigration. Elle a parlé plutôt des fractures territoriales, de l'aménagement du territoire. Elle a parlé à la France périphérique, mais elle a peu parlé de ce sujet. Et en effet, on peut penser que Emmanuel Macron considère que ce sujet va être un sujet saillant dans les mois et les années à venir, et peut-être même lors des élections municipales, parce qu'il y aura quand même aussi une nationalisation de l'enjeu municipal.
Allez, on va rester sur ça. Vous voulez ajouter une chose, Jean-Calmi?
Éventuellement, Sophie, si bien dessus. Non, parce qu'il y a effectivement une concurrence, si je puis dire, des positions et des partis de droite, et surtout de l'extrême droite, appelons-le.
Du Rassemblement National.
Voilà, du Rassemblement National. Sur ce problème, en tout cas cette question de l'immigration, mais Emmanuel Macron aurait tort de croire que donner un coup de barre à droite toute pourrait lui être utile. Alors effectivement, même si ça n'apparaît pas dans les sondages, c'est un sujet extrêmement important pour beaucoup de Français parmi les plus modestes. Ouais. Mais par exemple, il a tort
de mettre la barre à droite.
Non, trop à droite. C'est vrai que sur la thématique, il a raison. C'est quelque chose qui concerne énormément de gens et d'électeurs, mais y compris dans les classes les plus modestes. Mais par exemple, il se tromperait s'il, comme la rumeur semble le dire, il voulait remettre en cause l'AME, c'est-à-dire l'aide médicale.
On va y venir. Jean-Yves Calimi, on a une belle demi-heure là-dessus sur ce qui se produit aujourd'hui en France. Donc on va y venir, on a le temps, 20h10 sur France Info. Tout d'abord, il faut ce rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
La liquidation judiciaire pour Aigle Azur, décision du tribunal de commerce d'Evry qui juge pas suffisamment satisfaisantes les offres de reprise déposées pour la compagnie aérienne. Les juges décident tout de même de la poursuite de l'activité jusqu'au 27 septembre et permet aux candidats d'améliorer leur offre d'ici là. Ils ont jusqu'à mercredi minuit pour le faire. Le tribunal correctionnel de Lyon relaxe deux militants écologistes qui avaient décroché le portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie d'arrondissement de la ville. Et d'après le juge, cet acte pour dénoncer l'inaction climatique du président a un motif légitime. Il y a un état de nécessité. Selon lui, le vol est bien matérialisé, mais le trouble à l'ordre public n'a été que très modéré. Moed Altrad se porte officiellement candidat à l'élection municipale de Montpellier. Le patron franco-syrien, milliardaire, président du club de rugby de la ville, annonce qu'il prendra le meilleur de la gauche et de la droite. Et il se dit soutenu par Coralie Dubost, la députée de La République En Marche. Londres n'a pas proposé de solution satisfaisante pour un nouvel accord sur le Brexit, annonce la Commission européenne. Son président, Jean-Claude Juncker, a déjeuné tout à l'heure avec le Premier ministre britannique. Les deux parties promettent d'intensifier les discussions. Boris Johnson lui répète qu'il ne demandera pas de report de la date butoir fixée au 31 octobre. C'est pourtant ce qu'exige de lui son Parlement après un vote la semaine dernière. Et puis le Paris Saint-Germain confirme les forfaits de Kylian Mbappé et Edinson Cavani face au Real Madrid mercredi. Ce sera le début de la phase de poule de la Ligue des Champions de football. Le club de la capitale qui sera donc privé de ses trois stars en attaque puisque Neymar, lui, est suspendu.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés, Jean-François Aquili.
Nous l'évoquions tout à l'heure, il y aura ce débat le 30 septembre à l'Assemblée nationale sur l'immigration, débat sans vote, évoqué par Marine Le Pen, tiens, qui faisait sa rentrée hier à Fréjus. Écoutez son propos.
Là, à l'Assemblée nationale, on va avoir un débat sur l'immigration sans vote. Eh bien, le Rassemblement national aura 0 minute de temps de parole. C'est pas très grave, on se fera entendre autrement. Mais nos dirigeants... Mais mes amis, nos dirigeants n'ont-ils pas compris que si les débats n'ont pas lieu dans les assemblées, alors ils auront lieu dans la rue ?
Maya Daboulos, quand on entend la présidente du Rassemblement national, on comprend mieux le choix d'Emmanuel Macron de mettre ce sujet sur la table ?
C'est certainement une des raisons pour lesquelles il met le sujet sur la table, pour se poser et poser le duel avec Marine Le Pen, mais c'est sans doute pas la seule raison. Il veut aussi rassurer un électorat qui, encore une fois, reste préoccupé par ces questions. Et par ailleurs, se montrer à la manœuvre, faire l'agenda politique, montrer qu'il met lui-même les sujets sur la table. Je vois quand même deux risques importants. Vous parliez du débat à l'Assemblée. Sa majorité suit Emmanuel Macron, même si elle n'est pas d'accord en général, à condition que les sujets aient été posés sur la table au moment l'élaboration de son programme. C'est le cas par exemple pour la PMA. C'est pas le cas sur l'immigration. Donc là, on voit un premier risque. Le deuxième risque, c'est que c'est une majorité qui a été élue en 2017 et qui est donc le reflet de son électorat de l'époque, centre-gauche. Aujourd'hui, l'électorat a bougé. Clairement, son électorat est davantage centre-droit. Il peut y avoir un sujet de tension.
Donc il ajuste le tir, quelque part.
Il peut y avoir un sujet de tension avec sa majorité, d'autant, il faut le rappeler, l'immigration est un sujet extrêmement inflammable pour l'électorat de gauche, et notamment de centre-gauche.
Gilles Bernstein, je pense que Mayada a raison, il veut fixer un électorat. On a cité beaucoup de chiffres, moi j'en citerai un autre, c'est 30%. C'est 30% des électeurs de François Fillon au premier tour de la présidentielle qui ont voté pour la liste La République En Marche. Ces 30%-là, il les a ferrés, je pense qu'il veut les fixer. À un moment où il repart un tout petit peu à gauche sur le social, il veut continuer à montrer à sa droite, qui n'est pas l'extrême droite. Je ne suis pas certain qu'il s'adresse essentiellement aux électeurs de Marine Le Pen. Je pense qu'il s'adresse à ses électeurs qui étaient de droite et qui l'ont rejoint, et bien qu'il continue à être cet homme de droite modéré, mais intéressé par les questions régaliennes pour définitivement fracturer la droite et définitivement les arrimer à son camp.
Alors Arnaud Benedetti, sur la préoccupation des Français par rapport à ce sujet migratoire, vous avez entendu l'extrait de Marine Le Pen en meeting « On est chez nous ». Derrière, il y avait ces cris répétés dans la foule, on est chez nous.
Non, mais sur le sujet de l'immigration, de toute façon, le Rassemblement National, ex-Front National, sur ce sujet, a une longueur d'avance dans l'opinion publique, clairement, je veux dire, puisque de toute façon, c'est leur sujet, l'enjeu principal qui les a fait émerger sur la scène politique. Donc, ils n'ont même pas besoin d'en rajouter beaucoup plus pour tout simplement avoir une visibilité sur ce sujet et être audible, en tout cas, par une partie de l'opinion publique. Ça, c'est un point. Mais ce qui est intéressant avec la stratégie de Macron, et je rejoins ce que vous disiez, c'est qu'en effet, l'électorat de Macron a bougé. La sociologie électorale de Macron a bougé. Tout simplement, elle a bougé parce que Macron n'a pas forcément mené la politique quand il est arrivé au pouvoir, qu'une partie peut-être de la gauche pensait qu'il mènerait. C'est-à-dire qu'il a mené une politique de centre-droit, libérale, sociale, certes, mais qui parle en tout cas à un électorat qui est plutôt l'électorat orléaniste et que l'on retrouve notamment dans le vote lors des élections européennes. Et il sait très bien que, de toute façon, aujourd'hui, il a quand même brûlé une partie de ses vaisseaux à gauche. Il a brûlé une partie de ses vaisseaux à gauche et donc il faut qu'il consolide sur la droite. Et il a compris qu'il a enfoncé un coin à droite lors des élections européennes et qu'il veut tout simplement prolonger, disons, cette fracture de la droite en ramenant vers lui une partie de l'électorat de droite, une partie de cette droite conservatrice qui, alors, sur les questions de l'immigration, demande en effet de la fermeté.
Alors, consolider à droite, il y a quand même un parti qui s'appelle Les Républicains. Écoutez ce qu'on a dit tout à l'heure de cette mainmise du président Macron sur ce sujet de l'immigration. Nadine Morano, l'eurodéputée Les Républicains, qui était l'invité du 1850 France Info en direct du Parlement européen de Strasbourg.
Je crois qu'il mesure sans doute à quel point il y a une exaspération dans notre pays s'agissant du traitement de l'immigration. On le voit bien, c'est les chiffres, vous savez, qui parlent, monsieur Akili. Oui. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on n'a jamais eu autant de titres de séjour qui ont été délivrés, plus de 255 000.
Jean-Yves Calimi, sujet que la droite républicaine traditionnelle maîtrisait jadis. Il y avait eu ce ministère sous Nicolas Sarkozy de l'immigration et de l'identité nationale. Elle a perdu le pied sur le terrain ?
Elle a perdu en partie-pied, comme sur beaucoup d'autres terrains, soit au profit d'Emmanuel Macron de La République En Marche, soit au profit de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Ça, c'est sûr. Mais je voudrais revenir à Emmanuel Macron. On l'a dit, on le répète, c'est vrai que l'immigration, et on pourrait même parler de l'intégration et des problèmes de laïcité, mais c'est un autre problème. Restons sur l'immigration, donc avec les flux, les contrôles aux frontières, les regroupements familiaux et ce genre de sujets déjà en soi extrêmement sensibles. Oui, ce sont des dossiers que la droite s'est, entre guillemets, accaparé. Mais encore une fois, attention, il y a aussi énormément de populations d'électorat populaire, très populaire, qui peuvent voter, qui continuent à voter à gauche, que ce soit les socialistes ou les insoumis, et qui votent aussi pour le Rassemblement National, qui a une forte base électorale populaire, mais c'est donc aussi une base populaire qu'Emmanuel Macron, et pas seulement un électorat dit de droite, qu'Emmanuel Macron, là, cherche à apaiser, oui, à réconforter. Et encore une fois, un dernier point, il y a aussi à droite un électorat, entre guillemets, social. C'est-à-dire que si, encore une fois, Emmanuel Macron remettait en cause l'aide médicale, l'assistance...
On va y venir. Vous m'intéressez sur l'électorat populaire. Vous avez déployé une enquête publiée aujourd'hui. Hein.
Exactement, pour confirmer ce que dit Yannick, Le Monde publie ce soir la grande enquête Fracture de la Fondation Jean Jaurès et de l'Institut Montaigne, qui disent exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que les préoccupations sur l'immigration dépassent très largement l'électorat du Front National, puisque 64% des Français disent « on ne se sent plus chez nous aujourd'hui ». À ma connaissance, il n'y a pas 64% de Français du Rassemblement National. Trop d'étrangers en France, 63%. Et est-ce que les étrangers font assez d'efforts pour s'intégrer ? Pareil, plus de 60% disent non. Donc cette préoccupation de l'immigration d'une manière ou d'une autre touche des électorats bien au-delà de ceux qui votent Front National, chez les Républicains, mais aussi à la France Insoumise et évidemment à La République En Marche aussi.
Et un électorat, notamment, encore une fois, populaire, puisqu'on parlait beaucoup d'un électorat de droite considéré comme CSP moyen et plus. Il y a aussi un électorat de droite, mais aussi de gauche, qui est fondamentalement populaire et qui est, par un tas de critères culturels, financiers, économiques, et qui est particulièrement touché, on le sait, à tort, à raison, en tout cas, par les problèmes d'immigration et d'intégration.
Et Yannick Halimi, vous allez être ravie. Nous allons parler de l'AME juste après le rappel des titres à 20h20 sur France Info avec vous, Jules de Kiss.
Après les employés de la RATP, vendredi, ce sont les avocats, les médecins, les travailleurs du secteur aérien qui manifestent contre la réforme des retraites. Des cortèges dans plusieurs villes de France, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Paris. Ces professions libérales, pour la plupart, veulent conserver leur régime autonome et ne veulent pas d'une harmonisation promise par le gouvernement. Le tribunal de commerce d'Evry place Aiglazur en liquidation judiciaire. Mais la deuxième compagnie française, plombée par les dettes, va tout de même pouvoir poursuivre son activité jusqu'au 27 septembre. Entre-temps, jusqu'à mercredi minuit, les offres de reprise peuvent être améliorées, car pour l'instant, elles ne sont pas suffisamment satisfaisantes, d'après les juges. EDF risque de devoir restreindre sa production dans certaines centrales nucléaires à cause de la sécheresse. Le débit du Rhône n'est plus suffisant. Cela pourrait concerner les sites du Bugey dès demain, puis ceux de Saint-Alban et du Tricastin. Le dépouillement se poursuit en Tunisie. 24 heures après la fin de la fermeture des bureaux de vote, deux candidats anti-système arrivent en tête de ce premier tour de la présidentielle. L'un est universitaire, l'autre un homme d'affaires soupçonné de fraude fiscale et actuellement en prison. Les résultats définitifs devraient être connus demain et le second tour aura lieu dans un mois. Ils sont blancs, voguent à 30 km/h sur la Seine et pourraient entrer en service au printemps prochain. Les Sea Bubbles reprennent leur expérimentation aujourd'hui à Paris. Ce sont des petits bateaux-taxis montés sur des foils, ce qui leur permet de léviter sur le fleuve.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, comme si nous y étions, il y a ces documents qui circulent pendant les réunions, ce sont des SMS et parfois des photos. Tiens, je la décris pour ceux qui nous écoutent à la radio et nous l'affichons à la télévision. On voit le président Emmanuel Macron saluant la foule des parlementaires. Marc Fesneau, le ministre, le secrétaire d'État des relations avec le Parlement, qui s'adresse donc à tous les parlementaires qui sont réunis devant ces personnalités. Et on voit à la droite de cette photo, je la décris toujours pour ceux qui nous écoutent sur France Info à la radio, eh bien Richard Ferrand, très sérieux, très concentré. Ils sont donc là, tous les trois, donc face à la foule des parlementaires. Ce document donc qui a certainement dû être envoyé, transmis par un député. Décidément, il n'y a plus de limite au huis clos. Juste pour revenir sur l'AME, l'aide médicale de l'État, son octroi risque d'être sans doute réglementé. Il a été question d'un temps pour certains de la supprimer, mais il n'en est pas question, nous dit le député de La République En Marche, Aurélien Taché. Il était l'invité de France Info ce matin.
Aujourd'hui, on a plus de 80% des gens qui auraient droit qui n'y ont pas accès. Personne ne veut supprimer l'AME. Le Premier ministre est venu mardi matin devant les parlementaires, a dit que c'était vraiment vraiment dingue qu'on puisse penser une seconde que ce gouvernement veut supprimer l'aide médicale d'État. C'est justement parce qu'on y est très attaché qu'on veut pouvoir regarder si aujourd'hui il faut la réformer ou non et s'il y a des abus ou non. Mais moi je le redis, l'aide médicale d'État est quelque chose d'extrêmement utile.
Aurélien Taché, donc Maya Daboulos, c'est curieux que ce sujet-là vienne également sur la table. Il y a des enquêtes en cours de l'inspection générale des affaires sociales et de celle des finances. Pourquoi revenir sur l'aide médicale d'État ?
Quand on parlait de la présence en fait, du sujet de l'immigration dans l'opinion, on note qu'il y a deux sujets particulièrement inflammables. La question de la lutte contre l'immigration clandestine et le deuxième sujet, c'est le coût de l'immigration. Partant de ce constat, la majorité, ou en tout cas le président de la République, pense que la question de l'AME va être explosive. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi la force du symbole. Cette année, a priori, l'AME, dans le budget, va dépasser le milliard d'euros. Donc c'est une cible un peu facile. Et je pense que c'est une cible inflammable. Et d'ailleurs, le président en a conscience, il monte lui-même au front. Il faut se rappeler quand même que Emmanuel Macron, lorsqu'il était donc ministre et ou encore avant à l'Élysée, a vécu la période des frondeurs. Et je pense que ça l'a aussi traumatisé, en tout cas ça l'a fortement marqué. Et donc à partir de là, il veut absolument éviter ce genre de situation. Et c'est parce qu'il a conscience précisément que ce sujet est inflammable qu'il monte personnellement au front.
Arnaud Benedetti, pas question de supprimer cette aide, hein, mais il faut la réguler, il faut la contrôler. Oui, alors, c'est le gouvernement qui veut montrer qu'il travaille, c'est ça ?
Sur la question migratoire, la question migratoire, on touche aux limites du en même temps. C'est-à-dire que, si vous voulez, autant il y a des sujets où les marcheurs peuvent se retrouver autour d'une synthèse, je pense notamment sur la question économique, autant sur les questions de ce type, c'est-à-dire des questions qui sont fortement régaliennes, on voit bien que à la fois l'aile gauche et l'aile droite des marcheurs ne sont pas automatiquement d'accord. On a rappelé qu'il y avait eu en effet un certain nombre de frondeurs entre guillemets lors du vote de la loi. Donc c'est un sujet qui est complexe pour Emmanuel Macron et c'est un sujet d'autant plus complexe que au cours de sa campagne présidentielle, il avait plutôt un discours qui était un discours, vous l'avez rappelé, un discours plutôt assez libéral de ce point de vue-là. Et l'exercice du pouvoir manifestement est en train de changer. Et puis on ne peut pas totalement exclure le fait qu'il y ait des remontées de terrain de la part d'un certain nombre de parlementaires qui font état vraisemblablement aussi des préoccupations de leurs électeurs quant à ce sujet. Je rappellerai un dernier point, c'est que la France périphérique, qui aussi a été dans la rue lors des manifestations des Gilets jaunes, c'est une France aussi qui vote fortement Rassemblement National, tout ce qu'on appelle la diagonale du vide, hein, et qui a donné notamment ses meilleurs scores au Rassemblement National lors des élections européennes, est une France qui est en effet elle-même très inquiète quant à la question migratoire. Donc on peut penser qu'il y a une offensive d'Emmanuel Macron sur ce sujet, une offensive pour à la fois aller chercher encore une fois l'électorat conservateur, mais peut-être aussi pour essayer de rassurer cet électorat populaire qui quand même l'a particulièrement inquiété ces derniers mois.
Jean-Yves Calimi, pour poursuivre ce que dit Arnaud Benedetti, il s'agit là pour le chef de l'État de couper l'herbe sous les pieds du Rassemblement National. Notamment l'AME sont typiquement les sujets dont les personnalités RN s'emparent.
Oui, ça on l'a dit depuis le début, effectivement tout ce sujet c'est pour couper l'herbe sous les pieds du Rassemblement National et encore une fois aussi pour conserver ou recapter une population et un électorat populaire, il faut le dire et le répéter. Mais sur l'AME, j'y reviens, là il ferait une erreur, parce que s'il entre dans le jeu du Rassemblement National, comme vous le disiez, Maya, avec ce fameux milliard... Mayada. Avec ce milliard un peu symbolique, effectivement, là, je pense qu'il ferait une erreur. Parce que autant, encore une fois, sur le regroupement familial, sur les reconduites aux frontières, sur l'immigration clandestine et illégale, il peut retrouver tout l'électorat et tous les discours dont on parlait tout à l'heure. Autant sur l'AME, qui rejoint quand même l'humanitaire, l'aide sociale, les devoirs humains que chacun d'entre nous peut donner, il s'agit quand même d'apporter secours à des gens dans une détresse financière, évidemment, et médicale la plus totale. Autant là, sous réserve, bien sûr, de correction de fraude, où là, tout le monde peut tomber d'accord, je pense qu'il ferait une erreur, parce que en remettant en cause totalement ce principe, d'ailleurs, il n'en est pas...
Je ne crois pas qu'il en soit très
vite. Non, il n'en est pas question, mais je réponds à la question de Jean-François Killy. Il n'est pas question qu'il coupe l'herbe sous les pieds du Rassemblement national en entrant dans le jeu du Rassemblement national, parce que là, il y a un électorat de droite, notamment un électorat catholique, qui n'est totalement et qui a voté en masse, si je puis dire, pour La République en Marche aux européennes, qui serait totalement opposé, totalement opposé à ces coups de canif, à cette AME.
Réunion donc toujours en cours. Emmanuel Macron face à sa majorité. Dans un instant, dans la deuxième partie des informés, nous irons faire un détour par la Tunisie où se jouent actuellement, vous le savez, les élections présidentielles. 20h et 28 minutes sur France Info. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Si je te dis porte blindée et réseau de serrurier agréé, tu me réponds ?
Point Fort Fichet, bien sûr.
Eh bien, du 3 au 21 septembre, Point Fort Fichet reprend ton ancienne porte d'appartement ou de maison jusqu'à 700 euros.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Point Fort Fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Les éditions Radio France présentent le Grand Atlas 2020. Un outil indispensable pour comprendre le monde. Un véritable panorama de l'actualité grâce à des analyses d'experts et plus de 100 cartes inédites. Au sommaire, vers un monde inégalitaire, l'engagement des jeunes pour l'écologie et un dossier spécial sur la Chine. Le Grand Atlas 2020 sous la direction de Franck Tétard, une coédition France Info en partenariat avec Courrier International.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions, avec vous Élodie Calac pour Météo France.
Un temps estival demain, pas moins de 10 à 16 degrés au nord le matin, 14 à 19 au sud. L'après-midi, comptez 19 à 22 degrés sur les régions voisines de la Manche, 23 à 28 sur le reste de la moitié nord. En allant vers le sud, il fera plus chaud, 28 à 33 degrés, jusqu'à 35 en basse vallée du Rhône. Tout ça sous le soleil le plus souvent. Alors ça sera bien nuageux quand même, du nord-ouest jusqu'à l'Alsace le matin, mais ça s'éclaircira largement l'après-midi. Au nord de la Seine, le soleil s'imposera dès le matin. Pareil sur les régions allant de la Nouvelle-Aquitaine vers le Jura, les Alpes, la Méditerranée, même si quelques nuages bas viendront contrarier le soleil de temps en temps en tout début de journée, vers le sud de la Garonne, vers le Languedoc ou alors vers la Côte d'Azur. La suite de la semaine s'annonce estivale, il faudra attendre dimanche pour voir une dégradation arriver.
Sur France Info, toute l'info. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Un nouveau sursis pour le millier de salariés d'Aigle Azur. La compagnie aérienne en difficulté est liquidée, mais avec poursuite d'activité jusqu'à la fin du mois. Pas question de refaire voler des avions. Le tribunal de commerce d'Evry en Essonne s'est juste donné du temps pour permettre aux éventuels repreneurs d'améliorer encore leurs offres. Isabelle Raymond.
Ce sont les 48 heures de la dernière chance. Les repreneurs potentiels d'Aigle Azur ont jusqu'à mercredi minuit pour améliorer leur offre, car pour l'instant, aucune ne tient la route. Air France et Air Caraïbes n'ont pas déposé de dossier suffisamment solide. Quant aux compagnies low-cost Vueling et EasyJet, elles ont manifesté leur intérêt pour Aigle Azur, sans toutefois déposer d'offres de reprise. À croire que toutes ne convoitent en réalité que les précieux slots de la compagnie en faillite. C'est quasi 10 000 autorisations de se poser à Orly, aéroport saturé, et à dans le même temps que les salariés d'Aigle Azur soient licenciés pour pouvoir les embaucher à leurs propres conditions. Les syndicats et les pouvoirs publics ne veulent pas se résoudre à cette option. Le tout nouveau ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, pousse ainsi pour une offre commune Air France, Air Caraïbes. Tous comptent mettre à profit ces 48 prochaines heures pour négocier un compromis.
Isabelle Raymond, il était inscrit en cinquième année de pharmacie à l'université de Rouen. Un étudiant de 23 ans est mort lors d'un week-end d'intégration organisé ces derniers jour en Belgique, on n'en sait pas plus. C'est la rentrée de la majorité. Députés et sénateurs de La République En Marche et du Modem réunis ce soir dans les jardins du ministère des Relations avec le Parlement pour un point sur cette rentrée. Plus de 400 personnes présentes, dont une bonne partie du gouvernement autour d'Emmanuel Macron. Une façon pour le chef de l'État de lancer l'acte 2 du quinquennat. Eux mettent en cause l'inaction du gouvernement dans ce dossier politiquement sensible. Plusieurs familles de femmes et d'enfants de djihadistes français
retenu dans des camps kurdes en Syrie, porte plainte contre le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Elle l'accuse d'omission de porter secours. La procureure de la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, fait appel de l'acquittement prononcé en janvier à l'encontre de Laurent Gbagbo et de l'un de ses proches. L'ancien président ivoirien était jugé par la CPI pour crime contre l'humanité après les violences post-électorales qui avaient éclaté en Côte d'Ivoire en 2010 et en 2011. Cette rencontre au sommet entre le président de l'exécutif européen Jean-Claude Juncker et le premier ministre britannique Boris Johnson à Luxembourg. Et pourtant, la Commission européenne reste sur sa faim, estimant que Londres n'a toujours pas proposé de solution satisfaisante pour un nouvel accord sur le Brexit. Et puis le PSG confirme le forfait de ses stars Kylian Mbappé et Edinson Cavani, tous les deux blessés. Les deux buteurs du PSG ne participeront donc pas au choc de la première journée de Ligue des Champions contre le Real mercredi.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Mayada Boulos, directrice générale adjointe de Havas Paris, avec Gilles Bornstein, Bornstein, éditorialiste politique à France Info, et avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Le sujet ne vous a pas échappé depuis quelques jours. Isabelle Balkany, la première adjointe à Levallois, qui a fait appel de sa condamnation à 3 années de prison pour fraude fiscale et donc a été laissée libre, réunit sa majorité municipale ce soir pour son maire adjoint à la jeunesse et à la communication, David Xavier Weiss, invité de France Info ce matin. Les Balkany seraient comme une marque de fabrique, d'où le soutien d'une large partie de la population levalloisienne.
C'est une marque, voilà, c'est une marque.
C'est une comme... marque condamnée par la justice.
Non, mais c'est une marque, c'est comme... Alors ça peut choquer, ça peut faire rire, ça peut faire sourire. C'est comme Nike, c'est comme Coca-Cola. Patrick Balkany, c'est une marque.
C'est une marque d'amour. C'est une marque qui n'est pas entachée aujourd'hui.
C'est une marque d'amour entre des Levalloisiens et un maire. Alors ça, je sais que ça choque, quand on n'habite pas Levallois, ça peut surprendre, ça peut étonner, mais c'est une marque d'amour.
Mayada Boulos, c'est une marque, les Balkany, comme ces deux marques célèbres citées par cet élu.
Oui, c'est une marque. Personnellement, je trouve que c'est une marque dont on parle trop.
On en parle trop.
On en parle trop dans les médias. On en a beaucoup entendu parler. Alors,
pourquoi trop ? Ça m'intéresse.
Je pense que, alors, sur le fond de l'affaire, quand même, pour revenir un instant sur le, quand même sur le débat oui. qui agite en ce moment, c'est-à-dire le fait que sa femme prenne la suite et assure l'intérim.
Isabelle Balkany.
Isabelle Balkany. C'est légal. Elle a fait appel. L'appel est suspensif. Elle peut, en tant que première adjointe, évidemment, et non pas en tant qu'épouse, le remplacer.
Ça, c'est le terrain du droit. Hein.
Mais maintenant, une fois, est-ce que tout ce qui est légal est défendable ? Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas du
tout. Déjà, qu'elle soit première adjointe, c'est quand même bizarre.
Alors, c'est un autre sujet. Il y a le sujet légal et il y a le sujet de est-ce que il est normal que la première adjointe soit sa femme. Et justement, précisément, je trouve que ça correspond tout à fait à l'affaire. Je ne pense pas que ça soit défendable. En revanche, je pense que c'est complètement cohérent avec la manière dont ils ont géré la ville depuis le début, c'est-à-dire en famille.
Oui. Yannick Halimi, sur cet aspect des choses, il y a le droit d'un côté, puis il y a peut-être le regard différent qu'on peut poser sur cette situation.
Écoutez, oui, on peut juger tout cela immoral, amoral. Dans ce cas-là, changeons la loi. Mais c'est difficile de faire autre chose. Et puis, autre élément qui pourrait peut-être nous aider à réfléchir ou à faire évoluer tout cela, ce sont les élections de l'année prochaine, les élections municipales, parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Madame Balkany, là, elle est en campagne. Hier, elle a lancé sa campagne municipale, puisque la campagne pour les municipales, hein, elle peut, sauf décision qui la mettrait en prison sous mandat de dépôt en octobre, en septembre ou en octobre prochain, en octobre pour l'autre volet de l'affaire sur la corruption, tant qu'elle n'est pas en prison, elle peut tout à fait, elle n'est pas inéligible.
Vous faites bien de rappeler
ce fait, elle n'est pas inéligible, puisque l'inéligibilité... est suspensif.
Vous faites bien de le rappeler, puisque justement Isabelle Balkany, c'était en direct vendredi soir dans les informés de France Info, avait justement annoncé la candidature de son époux aux prochaines municipales à Levallois.
Il y aura des élections et les Levalloisiens voteront comme ils l'ont toujours fait. Je ne suis pas Madame Soleil, bien que je l'ai fort bien connue et qu'elle soit inhumée à Levallois. Je vous répète ce qu'a dit mon époux, c'est qu'il serait candidat. Et nous sommes une équipe soudée derrière lui.
Arnaud Benedetti, qu'est-ce que vous dites quand vous entendez...
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en prison, mais c'est suspensif, puisqu'il fait appel.
S'il sort de prison. Seulement s'il sort, tant qu'il ne sort pas de prison, il ne peut pas se représenter.
Oui, enfin bon, on verra ce que donnera la demande de libération.
Voilà.
Mais pour en revenir à la question de la marque, oui, c'est une marque, Balkany. C'est une marque transgressive, c'est-à-dire que c'est une marque transgressive et patrimoniale. Donc, c'est-à-dire qu'il se moque complètement de la façon dont il peut être jugé par un système qu'il rejette et qu'il considère finalement comme un système qui vient le condamner, alors que la seule légitimité qui, pour lui, à ses yeux, a une valeur, c'est la légitimité de ses électeurs. Il est réélu depuis maintenant un certain nombre de mandats. Il a été battu, je crois, en 95 une fois, mais il a pu revenir en 2002. Donc, il tient sa légitimité et il est, comme beaucoup d'élus locaux qui ont été en difficulté avec l'autorité judiciaire, du terrain. Et c'est en effet un combat qu'il mène, qui est un combat parfois peut-être qui n'est pas toujours moral, mais qui a sa propre logique.
Allez, on va reprendre ce débat dans quelques minutes, mais place au direct. Nous avons réussi une liaison avec la Tunisie. Vous le savez qu'il se joue l'élection présidentielle. Nous en sommes au lendemain du premier tour de l'élection en Tunisie. Bonsoir Taoufik Mjayed. Bonsoir, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes en direct de Tunis, hein, absolument.
Oui, je vous entends très bien.
Alors, vous êtes le rédacteur en chef à France 24, canal arabophone. Vous êtes donc, je le disais, en direct de la capitale tunisienne. Où est-ce qu'on en est des résultats ce soir, Taoufik?
Vous avez parlé de marque en parlant de Balkany. Moi, je vous parle d'une marque déposée qui s'appelle Tunisie. Alors, 52% des voix ont été dépouillées. Selon les résultats, toujours les résultats, les premiers résultats, donc on a toujours Kais Saied, ce professeur de droit constitutionnel qui est en tête avec plus de 18%. On a en deuxième aussi Nabil Karoui, ce candidat en prison qui est en deuxième position, et le candidat islamiste qui est en troisième position. Donc il y a beaucoup plus de questions que de réponses à Tunis. Ce que je peux vous dire, c'est que le scanner politique et le scanner médiatique était en panne, alors que le scanner des sondages a bien fonctionné, parce que ça fait quelques jours qu'on parle d'une possibilité d'un vote sanction, à savoir donner la priorité à des candidats populistes, parce que sur le top 10, sur les 10 candidats, nous avons 7 candidats anti-système et 3 candidats qui sont pour les systèmes et qui ont eu des résultats qui n'étaient pas à la hauteur du scrutin du premier tour des élections présidentielles en Tunisie. Donc il y a trop de questions. Comment se fait-il qu'un professeur d'université, comment il a travaillé? Il a même refusé le financement public en disant « Je ne peux pas accepter un financement public parce que si vous me le donnez, je ne suis pas sûr de pouvoir rembourser votre financement. » Donc, il n'a compté sur rien. C'est le Trump tunisien, mais sans Twitter, sans les réseaux sociaux. Il a mobilisé les étudiants dans les universités qui ont été vraiment la machine électoral pour ce candidat Kais Saied, qui parle un arabe littéraire, même au café.
Ce que je vous propose, Taoufik Mjayed, en direct de Tunis, c'est que vous restiez un instant avec nous. J'ai quand même quelques questions à vous poser en direct donc sur cette élection présidentielle. Et tout d'abord, il est 20h40 sur France Info. Nous marquons une pause avec le rappel des titres, Jules de Kiss.
Les candidats à la reprise d'Aigle Azur ont jusqu'à mercredi minuit pour améliorer leur offre. Pour l'instant, elles ne sont pas suffisamment satisfaisantes, d'après le tribunal de commerce d'Evry. Il place la compagnie aérienne criblée de dettes en liquidation judiciaire. Elle peut poursuivre son activité jusqu'au 27 septembre, le temps que les nouveaux dossiers soient examinés. Le procureur demande 4 ans de prison ferme contre les deux gérants du Kouba Libre, jugés pour homicide involontaire. Ils sont d'après lui coupables de manquement à la sécurité dans leur bar qui a brûlé. 14 jeunes y sont morts, pris au piège il y a 5 ans. Il cite notamment la sortie de secours qui était verrouillée. La décision des juges sera connue le 22 octobre. Le prix de l'essence va immanquablement augmenter ces prochains jours de 4 à 5 centimes par litre à cause des événements en Arabie Saoudite. Un complexe pétrolier attaqué par les rebelles yéménites Houthis contre qui Riyad est en guerre. Cela entraîne une baisse de production immédiate et conséquences directes. Les cours du pétrole ont grimpé de 10% ce matin. la tuile pour le PSG. Il va devoir faire son trio de stars en attaque pour débuter la Ligue des champions de football mercredi contre le Real Madrid. Neymar est suspendu et le club confirme ce soir les forfaits de Kylian Mbappé et Edinson Cavani qui ne seront pas remis de leurs blessures. Le dernier match de la 7e journée de Ligue 2 commence, lui, dans moins de 5 minutes. Ce sera au stade Félix Bollaert. Lens reçoit Châteauroux. La Berrichonne doit s'imposer pour sortir de la zone de relégation et les 100 et or, eux, rejoindraient le top 10 en cas de victoire.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous sommes toujours en direct de Tunis avec vous, Taoufik Mjayed, rédacteur en chef à France 24, le canal arabophone. J'ai envie de vous poser une question. Vous évoquez Kais Saied. On entend tout et son contraire sur le favori de cette élection. Est-ce qu'il a un lien avec les mouvements islamistes?
C'est ce qu'on dit, parce qu'il y avait un parti qui s'appelle le parti Tahrir en Tunisie, qui est considéré comme un parti islamiste. Je ne vous cache pas que j'ai eu des contacts avec les gens qui sont très proches de Kais Saied. Ils disent tout le contraire de ce qu'on raconte sur cette relation. Tout ce qu'on a sur cette relation, c'est qu'on a une photo prise avec le président de ce parti Tahrir, quelque part à Tunis. Et depuis, on dit qu'il y a une relation avec les salafistes, etc. Donc mais moi, je ne peux pas confirmer, je ne peux pas dire le contraire, je ne peux pas vous affirmer que cette relation existe. Mais c'est ce qu'on dit à Tunis, qu'il a des relations avec des extrémistes, etc. Mais là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que la majorité des jeunes ont voté pour lui.
Et toute dernière question, et on va vous laisser à Tunis, est-ce que Nabil Karoui va faire campagne depuis sa cellule de prison? Est-ce qu'il est censé supposément sortir pour poursuivre cette campagne présidentielle?
Le dégagisme a été une exception tunisienne, mais là on a une autre exception tunisienne, à savoir avoir un candidat en prison. Donc toute la question maintenant, que va dire la justice? Comment la justice va se prononcer? Comment ça va se passer? Même les partisans de Nabil Karoui ne savent pas. On me dit qu'il risque d'être libéré d'ici 2 jours, mais que va faire la justice? Parce que là, le juge, il est devant un fait, c'est qu'il faut que l'enquête se poursuive, quel que soit le résultat. Mais si l'enquête se poursuit, il va y avoir un dilemme, parce qu'on ne pourra pas le libérer. Mmh. Et si on le libère, le reproche va aller directement à Youssef Chahed. Pourquoi on a choisi le mauvais timing pour l'emprisonner? Et s'il est libéré, c'est-à-dire, alors pourquoi vous l'avez emprisonné? Ouais. Donc la question est là et tout le monde est dans l'embarras.
Merci à vous, en tous les cas, Taoufik Mjayed, en direct de Tunis, de France 24, réalisé avec les moyens de notre chaîne Ami France 24. Merci de nous avoir donné ces précisions ce soir sur cette élection présidentielle tunisienne. Maya Daboulos, un candidat au deuxième tour en prison, première mondiale, ça pourrait d'ailleurs donner des idées à d'autres. Hein.
Je vais y venir, mais quand même ce qu'il faut retenir aussi comme constat dans cette élection, c'est que l'islam politique est pas central dans cette élection, dans les clivages. Il est important, mais il est pas central. Deuxième point, effectivement, on a deux candidats anti-système. Globalement, quand on a du mécontentement social, ça peut aboutir à l'atonie ou au dégagisme. Là, c'est le dégagisme qui a gagné. Et quand on regarde dans le détail, ce sont les périphéries et pas le centre, parce que le centre, la capitale, a voté pour les grands partis. Ce sont les périphéries qui ont voté pour ces candidats et qui ont entraîné ce dégagisme. Et je trouve que c'est un signe de maturité immense pour une démocratie, somme toute, assez jeune.
Jannick Halimi, quel dégagisme en Tunisie?
Alors moi, je ne sais pas si c'est une maturité immense qui se passe aujourd'hui en Tunisie pour une démocratie assez jeune. Je reprendrai juste le titre d'un article que vient de publier la Revue des Deux Mondes à propos des élections tunisiennes, qui disent « Les Tunisiens aujourd'hui ont le choix entre un Rastignac en prison et un Robocop religieux. » Robocop, parce que
il a une diction
extrêmement mécanique. Alors, quand on pense, quand on se retourne sur ce qui s'est passé, cette révolution libérale qui avait fait rêver ô combien de peuples dans le Maghreb et dans le Machrek, dont la Tunisie avait donné le là en 2011, et qu'on voit ce à quoi on assiste. Et juste pour continuer sur la question qui était la vôtre, sur l'aspect islam politique ou religieux de Kais Saied. Alors, je ne sais pas, effectivement, et ce n'est pas moi qui vais contredire le journaliste tunisien, s'il a des liens, celui qui arrive en tête du premier tour a des liens avec les salafistes, etc. En tout cas, il est totalement assumé comme étant un religieux extrêmement conservateur. Qui est pour le rétablissement de la peine de mort, qui est contre le mariage homosexuel et qui voudrait revenir sur une des réformes que vient de faire passer le gouvernement qui est encore en place, un gouvernement de coalition, l'égalité hommes et femmes dans l'héritage. Donc moi, je ne sais pas si c'est une avancée. Pardon, hein, c'est pas pour
non,
vous.
Non, non, mais attention.
C'est
hein,
pas, c'est, oui. une pas avancée, c'est une avancée, une maturité particulière. Je trouve que en 8 ans, entre 2011 et 2019, il y a quand même eu des changements dont je laisse chacun apporter la qualification.
Échec des printemps arabes. En tout cas en Tunisie.
Échec en tout cas dans la conception que l'on se faisait du résultat des printemps arabes, c'est évident. Mais la réalité c'est que en plus l'histoire politique de la Tunisie est compliquée parce que c'est un pays qui est allé très loin dans la laïcité, vraisemblablement celui qui est allé le plus loin sous Bourguiba dans l'expression d'un état laïque et c'est un pays qui a été l'un des premiers pays du Maghreb à avoir un courant islamiste qui pénètre la société. Et c'est pour ça que je suis pas sûr que peut-être en effet l'islamisme n'est plus central politiquement, mais il l'est culturellement. Et l'une des forces aussi des islamistes, c'est d'avancer, sans le dire, sans le faire, d'avancer d'une certaine manière aussi masquée. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui en Algérie, et c'est ce qu'ils font aussi vraisemblablement en Tunisie.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de la situation en Tunisie, hein, au lendemain de ce vote au premier tour de cette élection présidentielle. Gilles Bornstein, je me tourne vers vous parce que vous avez des éléments nouveaux concernant la réunion qui se déroule en ce moment même.
Je croyais que vous vouliez que je parle de Tunisie, j'en aurais volontiers parlé.
Allez-y, faites-nous
plaisir. Non, je voulais juste dire un mot sur que... Je vais en parler de l'offensive du président Macron sur l'immigration. C'est sûr que, avec ces élections, avec la situation compliquée en Tunisie, on va entendre parler de nouvelles vagues d'immigration. Je ne sais pas si ça donnera de l'eau au moulin au président de la République, mais forcément, on va relier situation politique en Tunisie et nouvelles vagues d'immigration, d'autant que c'est pas faux de dire que les Tunisiens sont nombreux dans ce qu'on voit essayer de traverser
la métier. Vous faites bien de faire le lien et vous évoquiez aussi hors micro tout à l'heure des éléments nouveaux concernant
la réunion. Absolument, et là je dois dire que Yannick a parfaitement raison sur le lien entre classe populaire et immigration, parce que le président de la République, c'est des verbatims qu'on m'envoie, a dit très exactement « ne soyons pas un parti bourgeois ». Donc vous avez raison, ne soyons pas un parti bourgeois qui ne voit pas les problèmes des quartiers populaires. Et il a ajouté, le progressisme ne peut exister sans les classes populaires. Donc vous avez parfaitement raison. Il a lié ce problème de l'immigration. Il dit que c'est une préoccupation des classes populaires et que en tant que parti qui doit s'adresser à tout le monde, il doit absolument traiter cette question.
Et cela dessine, Gilles Bornstein, la marche du président dans les semaines, les mois qui viennent, de façon un peu générale. C'est de la politique générale. On pense évidemment à l'élection présidentielle.
Exactement. Il faut réformer le droit d'asile, a-t-il rajouté. Certaines filières font des demandes d'asile de manière industrielle. Nous sommes le premier pays pour le droit d'asile alors qu'il y a moins d'arrivées dans toute l'Europe. Oui, c'est un problème de politique d'immigration générale. Sur l'AME, je suis d'accord avec vous, il va peut-être le réduire vraiment à la marge en réduisant le panier de soins, comme on dit. Mais il veut vraisemblablement définir une nouvelle politique d'immigration. La mesure la plus importante serait des quotas par pays, etc. Peut-être réformer le droit d'asile dans la mesure où, enfin, que les pays sûrs, que les gens émanant de pays dits sûrs ne puissent même pas déposer de demande. Manifestement, c'est une offensive qui se prépare. Alors, on parle beaucoup des municipales, mais c'est vraisemblablement davantage en vue des présidentielles.
Voilà donc pour ces premiers mots, c'est très précieux ce que vous nous fournissez ce soir, quasiment en direct.
C'est cadeau, ça me fait plaisir.
De cette réunion très à huis clos, il va falloir attendre pour débriefer du président de la République face aux parlementaires de la majorité. 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec Jules Dequis.
Un étudiant en pharmacie de Rouen est mort lors de son week-end d'intégration dans la nuit de vendredi à samedi. Il se déroulait en Belgique. Le jeune homme de 23 ans a été percuté par une voiture près du lieu de l'événement. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, exprime sa profonde tristesse et demande à prendre conscience des risques de l'alcoolisation massive. Elle souhaite que les organisateurs de tels événements soient formés pour cela. Les avocats, les médecins, les infirmiers, les salariés dans l'aérien ne veulent pas qu'on touche à leur régime de retraite. Ils s'opposent à la réforme à venir du gouvernement et le disent dans la rue. Plusieurs milliers de personnes ont défilé à Paris et dans plusieurs villes de France. Les premiers résultats officiels confirment la tendance. Donc en Tunisie, au lendemain du premier tour de la présidentielle, deux candidats anti-système arrivent en tête. D'après le dépouillement de plus d'un quart des bulletins, Kaïs Saïed, un universitaire, devance Nabil Karoui, un homme d'affaires actuellement en prison pour des soupçons de fraude fiscale. Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé seront jugés à nouveau pour crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale fait appel de la décision d'acquittement rendue en janvier dernier pour des erreurs de procédure. Les faits visés remontent à 2010 et 2011, des violences post-électorales lorsque l'ancien président ivoirien refusait de reconnaître la victoire de son rival Alassane Ouattara. Les regrets de Nicolas Batum sur France Info. La médaille que l'on voulait était au-dessus, explique le capitaine de l'équipe de France de basket. Les Bleus doivent se contenter de la médaille de bronze au championnat du monde. On a malheureusement fait le pire match de notre campagne au mauvais moment, résume le joueur pour décrire la demi-finale perdue contre l'Argentine.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous évoquions à l'instant, grâce aux indiscrets de Gilles Bornstein, les propos du chef de l'État devant sa majorité. Une autre présence était très remarquée aujourd'hui à Clichy-sous-Bois, près de Paris, celle de Brigitte Macron, son épouse, venue à la rencontre des élèves de l'Institut des vocations pour l'emploi. Cette nouvelle structure, cette école pour jeunes sans formation, créée à l'aide du groupe LVMH. Elle y donnera un cours mensuel de littérature, mais viendra chaque semaine discuter du projet éducatif avec les enseignants. Écoutez ce que la première dame a dit des décrocheurs.
Ça fait un moment qu'ils sont éloignés de l'emploi et de la formation. Donc comment imaginer ce qu'il faut pour pouvoir s'épanouir dans un projet personnel? Moi, je pense qu'on a besoin d'un socle. Donc je veux expliquer qu'à tout âge, on peut repartir. Mais on ne peut pas repartir, je veux pas, bien sûr il faut des jobs alimentaires, c'est bien, mais c'est pas ça mon projet, c'est un métier qui leur correspond.
Alors ça c'est très étonnant Maya Daboulos, je rappelle qu'il y a un an, jour pour jour, le 16 septembre 2018, dans les jardins de l'Élysée, journée du patrimoine, le chef de l'État s'adressait à ce jeune horticulteur en lui disant « un emploi, je traverse la rue, je vous en trouve un dans les cafés, dans les restaurants ». Changement de ton.
Alors, je pense que l'acte 2 du quinquennat, quelque part, sera aussi celui d'une présence accrue de Brigitte Macron. Et je pense que si c'est voulu, si c'est scénarisé ainsi, et c'est sans doute le cas, c'est plutôt heureux. Pourquoi ? Parce qu'elle conserve...
Vous dites scénarisé ?
Oui, enfin le fait qu'elle fasse une sortie, que la première dame fasse une sortie médiatique est un acte politique. Et je pense qu'il a raison de le scénariser, parce que la première dame garde une popularité au sein de l'opinion. Et deuxièmement, elle ne le fait pas sur n'importe quel sujet. Elle le fait sur un sujet sur lequel elle a une légitimité, ou en tout cas sur lequel une légitimité lui est reconnue, à savoir l'éducation. Donc je trouve que, en fait, je ne sais pas si c'est un changement de ton, mais en tout cas un changement d'acteur sur la scène politique, ça c'est certain.
Arnaud Benedetti, vous avez écrit plusieurs ouvrages pour démonter, si je puis dire, les méandres de la communication. Ce coup-ci, un an plus tard, jour pour jour, c'est tout et son contraire.
Oui, alors d'abord, elle a toujours été, Brigitte Macron, un correctif permanent de son mari en termes d'image. Elle l'a adouci, elle l'a, disons, humanisé, une enveloppe qui, du côté d'Emmanuel Macron, pouvait être allergisante pour une partie de l'opinion. Mais moi, je note quand même que, depuis maintenant, le résultat des élections européennes, et on l'a entendu durant l'été, qu'il y a un ton dans la communication d'Emmanuel Macron qui s'est considérablement infléchi, c'est-à-dire que la période des petites phrases, du surlignage de sa politique par une communication parfois provocatrice, semble en tout cas pour l'instant derrière lui. Je rappelle que lors de ses vacances au fort de Brégançon, il a reconnu que la crise des Gilets jaunes n'était pas derrière nous, qu'elle était encore présente dans le pays. Donc il essaye manifestement d'amaudier sa façon d'être dans sa relation à l'opinion. Mais je pense qu'il y a autre chose aussi, c'est que vraisemblablement, il est dans une période où la question du réformisme se pose. C'est-à-dire que vraisemblablement quand même, le mouvement des Gilets jaunes, ce qui s'est passé, constitue quand même une étape majeure dans le quinquennat.
Vous confirmez, Jeannick Halimi, les Gilets jaunes sont passés par là?
Oui, les Gilets jaunes sont passés par là, mais moi ce qui me frappe peut-être, c'est comment dire, pas l'opposition, mais Emmanuel Macron a longtemps été, même s'il en revient un petit peu, mais enfin symbolisé, caractérisé par les premiers de cordée. On va pas revenir là-dessus, c'est fondé, c'est pas fondé, j'en sais rien. Toujours est-il que c'était sa philosophie, sinon de la vie, en tout cas du marché économique. Là, on voit avec les décrocheurs que Madame Macron prend plutôt les derniers de cordée, voire ceux qui ont déjà lâché la corde. Sauf que, donc c'est tout à fait bienvenu et je vais pas rajouter... Sauf que, autant les premiers de cordée sont adossés, cette idée, ce concept, encore une fois, même s'il est infondé pour beaucoup, sur un corpus idéologique réel, et une politique économique qui va avec, autant jusqu'à présent pour le moment, tout ce qui concerne les décrocheurs reste quand même, et je ne veux pas du tout blesser ceux qui en profitent, enfin ceux qui en profitent, ceux qui en bénéficient, reste quand même anecdotique. Donc on aimerait bien aussi que pour les décrocheurs et les plus démunis, les moins favorisés culturellement et économiquement, il y a aussi des politiques publiques qui accompagnent et qui vont au-delà, au public, ou d'ailleurs, puisqu'on parle de LVMH, avec peut-être un engagement plus grand également des entreprises.
Du privé.
Mais quelque chose de plus ample et de plus structurel.
Gilles Bernstein, pour conclure, cette première dame, comme le disait Maya Daboulos, acteur politique.
Je ne sais pas, j'étais un peu étonné. Enfin, je voulais demander à Mayada pourquoi elle pensait que la présence de Brigitte Macron était un élément important du deuxième acte. Alors effectivement, elle est populaire auprès des Français. Est-ce qu'elle représente l'écoute, le dialogue social, effectivement plus de réformisme, etc. Très honnêtement, j'en sais rien.
Et la question va rester posée ce soir. Nous n'y répondrons pas puisque nous n'avons plus le temps. Avec vous, Yannick Halimi, la une demain du Parisien, aujourd'hui
ce
en France.
Ce sont des informations exclusive sur le cancer du sein.
Et avec vous, Arnaud Benedetti, la une de la revue politique et parlementaire.
L'Europe, l'Union européenne et l'Europe, un couple impossible, point d'interrogation.
Allez, merci à tous les quatre, Yannick Halimi, Maya Daboulos, avec Gilles Bernstein et Arnaud Benedetti, d'avoir été les invités des informés de France Info. Pour ma part, je vous retrouve demain. Bonne soirée.